Troisième partie. Le pousseur. Chapitre 1. Amère médecine. 1. Quand le pistolero était entré dans l'esprit d'Eddie, celui-ci, un instant, avait été pris de nausée, puis il s'était senti observé. Ce dont Roland n'avait pas eu conscience, mais qu'Eddie lui avait raconté plus tard. Il avait, entre autres termes, vaguement perçu la présence du pistolero. Avec dédain, Roland s'était trouvé contraint de passer immédiatement au premier plan, qu'il en eût envie ou non. Elle n'avait pas fait que le sentir. D'étrange manière, il avait eu l'impression qu'elle l'attendait, lui ou quelque autre visiteur plus familier. Toujours fut-il que, dès cette irruption, elle avait eu pleinement conscience de sa présence. Jack Mort, en revanche, ne sentit rien. Il était trop concentré sur le gamin. Voilà 15 jours qu'il l'observait. Aujourd'hui, il allait le pousser. 2. Même de l'arrière de ses yeux par lesquels il regardait maintenant le monde, le pistolero reconnut le gamin. C'était celui qu'il avait rencontré au relais dans le désert, arraché à la séduction de l'oracle dans les montagnes, puis sacrifié quand il avait dû finalement choisir entre sauver cet enfant et rattraper l'homme en noir. Ce garçon qui, tout en plongeant dans l'abîme, lui avait alors crié « Allez-vous-en ! Il existe d'autres mondes que ceux-ci !» Et, à coup sûr, le gosse avait raison. C'était le même gamin. C'était Jake. Il avait un cartable à la main, contenant des livres, se dit Roland, au vu des formes anguleuses gonflant la toile bleue. Le flot du trafic emplissait la rue que le garçon attendait de traverser. Une rue, comprit le pistolero, appartenant à cette même grande ville d'où il avait déjà tiré le prisonnier et la dame. Mais pour l'heure, c'était sans importance. Seul comptait ce qui allait se produire ou ne pas se produire dans les quelques secondes qui allaient suivre. Jake n'avait pas échoué dans le monde du pistolero par l'entremise d'une porte magique. Il s'y était retrouvé après avoir franchi un seuil plus grossier, moins insolite, celui de sa propre mort. On l'avait assassiné. Pour être plus précis, on l'avait poussé. Poussé sur la chaussée où une voiture l'avait écrasé. Poussé alors qu'il allait à l'école, son cartable à la main. Poussé par l'homme en noir. Ce qu'il va faire, ce qu'il est sur le point de faire, tel va être mon châtiment pour avoir laissé mourir l'enfant dans ce monde d'où je viens, assister à son meurtre sans avoir le temps de l'empêcher. Mais Roland avait consacré sa vie entière à lutter contre la fatalité brutale. C'était son cas, en quelque sorte. Aussi bondit-il au premier plan sans même y penser, obéissant à des réflexes si enracinés qu'ils étaient presque devenus des instincts. Et dans le temps même où il agissait, une pensée aussi horrible qu'ironique lui traversa l'esprit. Et si ce corps dans lequel il venait d'entrer était celui de l'homme en noir? Si alors qu'il se ruait au secours de l'enfant, c'était ses propres mains qu'il allait voir se tendre pour le pousser. Si l'impression d'être aux commandes se révélait n'être qu'une illusion, et que l'ultime et jouissive plaisanterie de Walter fut que le pistolero lui-même dut assassiner l'enfant. 3. Un seul, un unique instant, Jack Mort perdit le contact avec la fine et puissante flèche de sa concentration. Sur le point de bondir et de pousser le gosse sous les roues des voitures, il sentit quelque chose dont son esprit lui donna une interprétation erronée, un peu comme lorsque le corps attribue à tel ou tel de ses organes une douleur émanant en réalité d'ailleurs. Quand le pistolero passa au premier plan, Jack crut qu'un insecte s'était posé sur sa nuque. Ni guêpe, ni abeille, rien qui eût un dard et le piqua pour de bon, mais une bestiole à la présence irritante, un moustique peut-être. Il y vit la cause de cette rupture de sa concentration en cet instant crucial, s'asséna une claque sur l'endroit de la démangeaison et ramena son attention sur l'enfant. S'il avait le sentiment de ne l'avoir détourné que le temps d'un clin d'œil, 7 secondes s'étaient en fait écoulées. Il ne fut pas plus sensible à la vive retraite du pistolero qu'il ne l'avait été à sa vive avance, et personne autour de lui, pas sans se rendant à leur travail, pour la plupart dégorgés par la bouche de métro un peu plus loin au carrefour, le visage encore bouffi de sommeil, le regard introverti, oscillant entre veille et rêve, ne remarqua que les yeux de Jack, après avoir viré de leur bleu foncé naturel à une nuance plus claire derrière ses verres cerclés d'or, reprenaient leur couleur cobalt. Personne ne remarqua non plus l'éclair de rage frustrée qui envahit ses yeux lorsque, de retour à la normale, Jack les centra de nouveau sur l'enfant. Le feu était passé au rouge. Il regarda sa proie manquée traverser avec le reste du flot, puis rebroussa chemin à contre-courant du flux des piétons.
« Et là, monsieur, faites un peu attention à ce que... »
À peine entrevit-il la bouille de l'écaillé de l'adolescente avant de la bousculer sans ménagement, indifférent aux cris de colère qu'elle poussait alors que sa brassée de livres de classe lui échappait des mains. Il continua de descendre la 5e avenue, s'éloignant du croisement de la 43e rue, là où il avait espéré tuer le gamin aujourd'hui. Il fonçait tête baissée, lèvres pincées, au point de ne plus paraître avoir de bouche, tant il n'en restait qu'une mince et ancienne cicatrice lui barrant le bas du visage au-dessus du menton. Loin de ralentir, une fois libéré de la bousculade, il allongea le pas pour traverser la 42e rue, franchit sur sa lancée la 41e, puis la 40e, et passa alors devant l'immeuble du garçon. Il n'y jeta qu'un bref regard, bien qu'il eût, depuis 3 semaines, chaque jour où il y avait école, suivi Jake dans son trajet matinal sur la 5e avenue, de la porte de cet immeuble jusqu'à la 3e intersection, endroit qu'il appelait mentalement le point de poussée. Derrière, la fille braillait toujours, mais Jack Mort ne s'intéressait pas plus à elle qu'un collectionneur de papillons au commun des lépidoptères. Jack présentait à sa manière beaucoup de ressemblances avec un collectionneur de papillons. Il exerçait avec succès la profession d'expert comptable. Pousser n'était que son violon d'âcre. 4. Le pistolero regagna son poste d'observation à l'arrière de la conscience qu'il occupait et s'y fondit. S'il éprouvait quelque soulagement, c'était simplement parce qu'il savait à présent que cet homme n'était pas l'homme en noir, qu'il n'était pas Walter. Mais tout le reste n'était qu'horreur absolue et totale incompréhension. Divorcé d'avec un corps diminué, son esprit, son cas, retrouvait son acuité foncière, mais cette soudaine lucidité le frappa comme un coup sur la tempe. À présent que le gosse était hors de danger, cette même lucidité lui révélait à présent un rapport entre cet homme et Odette. Rapport inconcevable au plus haut point et néanmoins trop affreusement pertinent pour ressembler à une pure coïncidence. Un terrible soupçon l'envahissait alors à propos du tirage, à propos de l'authentique nature des 3 cartes retournées. La 3e n'était pas cet homme, ce pousseur. La 3e lame, Walter l'avait nommée mort. La mort, mais pas pour toi. C'était là ce que Walter, retors jusqu'au bout, retors comme Satan, avait annoncé en la retournant. Commentaire laconique d'un homme de loi si proche de la vérité que la vérité n'avait aucune peine à se dissimuler dans son ombre. Mort, mais pas pour lui. Mort dont il devenait l'instrument. Le prisonnier, la dame, puis mort en 3e position. 3e position qu'il eut soudain la certitude d'occuper. 5. Le bond que Roland fit pour passer au premier plan ne fut rien de moins que celui d'un projectile, missile inintelligent programmé pour lancer le corps qu'il hébergeait contre l'homme en noir sitôt qu'il le verrait. Les considérations sur ce qui pourrait advenir s'il empêchait l'homme en noir d'assassiner Jake ne devaient se présenter que plus tard. L'éventuel paradoxe, la fissure dans le temps et dans l'espace, susceptible d'annuler tout ce qui s'était produit après son arrivée au relais. Car Jake n'avait pas pu y être, puisqu'il le savait ici. Et tout ce qui avait alors suivi leur rencontre s'en trouvait nécessairement modifié. Modifié comment? Il était même impossible de s'en faire une idée. Que cela pût représenter la fin de sa quête ne l'effleura pas une seconde. Et de toute façon, prévoir a posteriori était d'un intérêt discutable. Aurait-il repéré l'homme en noir que ni conséquence, ni paradoxe, ni décret du destin ne l'aurait empêché de courber la tête du corps qu'il occupait pour la lancer dans la poitrine de Walter? Il n'aurait pu agir autrement, Pas plus qu'un revolver ne peut se soustraire au doigt qui empresse la détente, expédiant la balle sur sa trajectoire. Si ça foutait tout en l'air, que tout aille se faire foutre. Il scruta rapidement la foule massée au bord du trottoir, examinant chaque visage, les femmes comme les hommes, s'assurant qu'aucun ne faisait simplement semblant d'être celui d'un passant. Walter n'y était pas. Progressivement, il se détendit, comme un doigt déjà replié sur la détente peut au dernier instant s'en détacher. Non, Walter n'était nulle part à proximité du garçon, et le pistolero eut de quelque manière la certitude intuitive que le moment n'était pas encore venu, qu'il n'allait plus tarder, dans 15 jours, dans une semaine, voire d'ici 24 heures, mais pas encore. Si bien qu'il se retira. Ce faisant, il vit 6 et en resta interdit. Cet homme, dans l'esprit duquel s'ouvrait la 3e porte, avait un jour été posté juste en retrait d'une fenêtre, celle d'une pièce inoccupée dans un immeuble rempli de pièces pareillement inoccupées, sinon par les alcoolos et les timbrés qui fréquemment y passaient la nuit. La présence habituelle des alcoolos se décelait à l'odeur de leur sueur désespérée et de leur pie sargneuse, celle des timbrés à la puanteur de leurs pensées dérangées. Le mobilier se réduisait à 2 chaises. Jack Mort se servait des 2, de l'une pour s'asseoir, de l'autre pour caler en position fermée la porte donnant sur le couloir. Il ne s'attendait pas à être dérangé, mais autant ne pas prendre de risques. Il était assez près de la fenêtre pour voir ce qui se passait dans la rue, assez enfoncé toutefois dans l'angle d'ombre pour être à l'abri d'un éventuel regard. Et il avait à la main une brique qui s'apprêtait à retourner à la poussière. Une brique qu'il avait détachée du mur sur le côté de l'embrasure, là où bon nombre ne tenaient plus très bien. Elle était déjà ancienne avec ses coins arrondis par l'érosion, mais restait lourde. Des caillots de ciment y adhéraient, comme des berniques. Il avait l'intention de lâcher cette brique sur quelqu'un. Sur qui ? Aucune importance. Quand il s'agissait d'accomplir sa fonction de pousseur, de pourvoyeur de mort, Jack Mort n'était pas regardant sur la clientèle. Au bout d'un moment, une petite famille apparut un peu plus haut dans la rue, papa, maman et leur fillette. La gamine marchait du côté des maisons, sans doute à cause de la circulation qui, si près de la gare, était plutôt intense. La densité des véhicules n'entrait pour aucune part dans le choix du lieu. Décisive, en revanche, avait été l'absence de bâtiments vis-à-vis. De l'autre côté de la rue, on avait rasé des immeubles. Il n'en demeurait qu'un terrain vague jonché de planches fracassées, d'éboulis de briques et d'un miroitement de verre brisé. Il n'allait se pencher que quelques secondes et ne laissait paraître qu'une tête affublée de lunettes de soleil et coiffée d'un bonnet hors saison dissimulant ses cheveux blonds roux. C'était comme la chaise calée sous le bouton de la porte. Même si l'on s'estimait à l'abri de tout risque prévisible, il n'était pas mauvais de réduire l'inévitable part d'inattendu. Il portait également un sweatshirt 3 fois trop grand qui lui arrivait à mi-cuisse. En plus du doute que ce vêtement faisait planer sur son gabarit réel, il était assez maigre, un tel sac à patates, si d'aventure on le voyait se pencher, répondait à un autre but. Quand Jack larguait une grenade sous-marine sur quelqu'un, ainsi définissait-il cette forme de son activité, il larguait parallèlement la purée dans son froc. Le sweatshirt informe avait donc le mérite annexe de dissimuler la tache humide qui s'arrondissait invariablement sur son jean. La petite famille s'était rapprochée. « Ne gaspille pas ta bombe. Attends. Contente-toi d'attendre. » Il frémit au bord de la fenêtre, tendant la brique, puis la ramenant sur son ventre, l'attendant de nouveau pour de nouveau la ramener. Mais pas tout à fait cette fois, l'immobilisant à quelques centimètres de son corps, puis se penchant pour de bon, d'un sang-froid total à présent. Il l'était toujours en ce pénultième instant. Il lâcha la brique et la regarda tomber. Elle descendit, présentant successivement ses faces, et Jack eut dans le soleil une vision nette de ses berniques de mortier. En ces instants, comme dans nul autre, tout était d'une extraordinaire netteté. Tout ressortait dans l'exacte et géométrique perfection de sa substance. C'était cela dont il venait de pourvoir le réel, comme un sculpteur qui, balançant son maillet sur le ciseau, modifie la pierre et fait naître une substance nouvelle de la caldeira brute. C'est ce qu'il y avait de plus remarquable au monde. De la logique en habit d'extase. Il lui arrivait de rater sa cible, ou de la frapper de biais, comme au sculpteur de détacher un éclat malencontreux du bloc qu'il travaille et de riper dessus pour rien. Mais ce coup-ci fut parfait. La brique percuta carrément le crâne de la fillette en éclatante robe de guingan. Il vit jaillir le sang d'un rouge plus vif que celui de la terre cuite, mais qui, en séchant, allait s'obscurcir dans les mêmes tons de brun. Entendit hurler la mère, fut déjà loin de la fenêtre. Gagnant la porte, il envoya valdinguer à l'autre bout de la pièce la chaise qu'il avait calée. D'un coup de pied au passage, il venait de renverser l'autre sur laquelle il s'était assis pour attendre. Puis il souleva le sweatshirt, tira un foulard de sa poche arrière et s'en servit pour tourner le bouton. Comme ça, pas d'empreinte. Les négatifs seuls laissent leurs empreintes. Il refourra le foulard dans sa poche arrière, alors que la porte s'ouvrait, et adopta pour descendre le couloir une démarche légèrement avinée. Sans se retourner. Se retourner aussi était bon pour les négatifs. Car les positifs savent que tenter de voir si quelqu'un vous regarde est le plus sûr moyen d'amener ce quelqu'un à vous regarder. Se retourner était le genre d'acte susceptible de se graver dans la mémoire d'un témoin à la suite d'un accident, susceptible d'amener un flic plus malin que les autres à décider qu'il s'agissait d'un accident suspect et partant à ouvrir une enquête. Et tout ça à cause d'un simple coup d'œil nerveux par-dessus l'épaule. Jack ne croyait pas qu'on pût établir un lien entre lui et le crime, viendrait-on même à déclarer l'accident suspect, à ouvrir cette enquête. Mais ne prendre de risques qu'acceptables, les réduire au possible. En d'autres termes, toujours caler une chaise sous la poignée. Il s'engagea donc dans le couloir poussiéreux dont le plâtre des parois révélait par plaques l'armature de baguettes, le descendit les yeux rivés au sol, se marmonnant des trucs comme les clodos qu'on voit dans les rues. Les hurlements d'une femme, la mère de la fillette, supposait-il, continuaient de lui parvenir, mais de très loin, de la façade de l'immeuble, et c'était sans importance. Tout ce qui arrivait après, les cris, la confusion, les gémissements de la victime, quand elle était encore en mesure de gémir, n'avait aucun intérêt pour Jack. La seule chose qui comptait, c'était de pourvoir au changement dans le cours normal des choses, de creuser de nouveaux biefs dans le flux des existences, et peut-être pas seulement dans le destin de ceux qui étaient frappés, mais sur un cercle autour d'eux qui allait s'élargissant comme les rides autour d'un caillou jeté dans un étang. Qui pouvait dire qu'il n'avait pas sculpté le cosmos aujourd'hui ? Et que celui-ci n'allait pas dans l'avenir emporter la marque indélébile. Seigneur, pas étonnant qu'il en balance la purée dans son jean. Il ne croisa personne dans l'escalier, mais continua de tituber légèrement, sans embarder toutefois. Une allure modérément éméchée ne retiendrait pas l'attention comme l'aurait immanquablement fait d'ostentatoires zigzags. Il marmonnait toujours, mais sans rien dire qui pût être compris. En pareilles circonstances, il aurait même été préférable de ne pas du tout jouer la comédie que d'en faire trop. Une porte de service en piètre état le fit déboucher sur une ruelle jonchée d'ordures et de bouteilles cassées si nombreuses qu'elles éparpillaient sur le sol de scintillantes galaxies de tessons. Il avait programmé sa retraite à l'avance, comme il programmait toute chose à l'avance. Ne prendre de risques qu'acceptables, les réduire au possible, être toujours et en tout un positif. Une telle attitude lui avait valu d'être considéré par ses collègues comme un homme qui irait loin. Et il avait effectivement l'intention d'aller loin, mais l'un des endroits où il n'avait nulle intention d'aller était la prison, et un autre, la chaise électrique. Il y avait des gens qui couraient dans la rue sur laquelle donnait la ruelle, mais c'était pour aller voir d'où venaient les cris. Et pas un ne prit garde à Jack Mort qui avait retiré son bonnet hors saison, mais pas ses lunettes noires, lesquelles, par une matinée si ensoleillée, n'avaient rien d'incongru. Il emprunta un autre passage, ressortit dans une autre rue. Il remontait maintenant d'un pas nonchalant une troisième ruelle moins crasseuse que les deux premières vers une artère desservie par une ligne de bus. Moins d'une minute après, il eut atteint l'arrêt. Un bus se présenta, ce qui était également conforme au planning. Il y monta quand la porte accordéon s'ouvrit et laissa tomber sa pièce de 15 cents dans la boîte. Le chauffeur ne lui accorda même pas un regard. Parfait. Mais s'il avait levé les yeux sur lui, il n'aurait vu qu'un type en jean, un chômeur peut-être, avec ce sweatshirt qui semblait sortir d'un colis de l'armée du salut. Être prêt, paré à tout, être un positif. Tel était le secret de la réussite de Jack Morte dans son travail et dans ses loisirs. 9 rues plus loin, il y avait un parking. Jack descendit du bus, pénétra dans le parking, se mit au volant de sa voiture, une Chevrolet 50 parfaitement anodine et toujours en excellent état, puis regagna New York, sans l'ombre d'une préoccupation. 7. La vision complète de cet épisode n'avait pas requis plus d'un instant. Avant que le pistolero ait pu simplement fermer son esprit à l'horreur de ces images, il vit autre chose. Pas tout, mais assez. Largement assez. 8. Il vit Morte découper au cutter un morceau de la 4e page du New York Daily Mirror, s'assurant avec un soin méticuleux que sa lame suivait exactement le cadre de l'article. Une fillette de couleur dans le coma à la suite d'un tragique accident, annonçait le journal. Il vit Morte appliquer la colle au dos de la coupure avec la petite spatule dont était pourvu le couvercle du pot. Il le vit la positionner au centre de la page vierge d'un album qui, à en juger par l'épaisseur gondolée des pages précédentes, en contenait déjà beaucoup. Il put en lire les premières lignes. Odetta Holmes, 5 ans, venue à Elizabeth, New Jersey, pour un joyeux événement, est à présent victime d'un cruel coup du sort. Après le mariage d'une de ses tantes, célébré avant-hier, la fillette et ses parents se rendaient à pied à la gare quand une brique... Mais ce n'était pas la seule fois que Morte s'était occupée d'elle. Dans les années qui s'étaient écoulées entre ce matin-là et le soir où Odetta avait perdu ses jambes, Jack Morte avait largué un grand nombre d'objets et poussé un grand nombre de personnes. Puis, Odetta s'était de nouveau trouvé être sa victime. La première fois, il avait projeté quelque chose sur elle. La deuxième fois, c'était elle qui l'avait poussé devant quelque chose. De quelle sorte d'homme suis-je censé me servir ? Pensa le pistolero. De quelle sorte d'homme ? Mais Jake lui revint à l'esprit. La poussée qui avait expédié Jake de ce monde dans un autre. Et il crut entendre le rire de l'homme en noir, et ce fut plus qu'il ne pouvait en supporter. Roland s'évanouit. 9. Quand il reprit conscience, il avait sous les yeux des chiffres alignés bien nets sur une feuille de papier vert. Une feuille quadrillée, si bien que chaque chiffre ressemblait à un prisonnier dans sa cellule. Il pensa à quelque chose d'autre. Pas seulement le rire de Walter. Quelque chose d'autre. Un plan ? Seigneur, non. Rien d'aussi complexe, d'aussi riche d'espoir. Mais une idée au moins. L'esquisse d'une idée. Depuis combien de temps suis-je ici ? Se demanda-t-il, saisi d'une inquiétude soudaine. Il était dans les 9 heures quand j'ai franchi cette porte. Peut-être un peu moins. Combien de temps ? Il se projeta au premier plan. Jack Morte, qui pour l'heure n'était plus qu'une marionnette humaine manipulée par le pistolero, leva les yeux et vit les aiguilles de la coûteuse pendulette à quartz posée sur son bureau, marquée 13h15. « Dieu, tant que ça !»« Mais alors ?» Il dit, il était dans un tel état de fatigue. « Il n'aura jamais pu rester éveillé. » Roland tourna la tête de son hôte. La porte était toujours là, mais le spectacle qu'il y découvrait passait en horreur ses pires craintes. Sur un côté de l'ouverture, il voyait deux ombres. L'une était celle du fauteuil, l'autre celle d'un être humain. Mais d'une créature incomplète, en appui sur ses bras, parce que amputé en un temps d'une moitié de ses jambes, avec la même brutalité que Roland l'avait été de son orteil et de ses doigts. L'ombre se déplaça. Roland détourna aussitôt le visage de Jack Mort avec la soudaineté d'un serpent qui attaque. « Il ne faut pas qu'elle croise le regard de cet homme. Il ne saurait en être question tant que je ne suis pas prêt. Jusque-là, elle n'en doit voir que la nuque. » Non par crainte que Detta Walker vit Jack Mort de face, puisque quiconque regardait par la porte ne voyait que ce qui s'offrait au regard de celui sur qui elle s'ouvrait. La seule possibilité que Detta eut de voir le visage de cet homme était qu'il se regardât dans une glace, même si en toute logique, il pouvait en résulter un atroce paradoxe. Mais même alors, ce visage n'aurait rien évoqué à l'une ou à l'autre de ses deux moitiés. Pas plus que celui de la dame n'aurait évoqué quoi que ce soit à Jack Mort. Bien qu'ils aient été par deux fois sur un pied de mortelle intimité, ils ne s'étaient jamais vus. Ce que le pistolero tenait à éviter, c'était que la dame vit la dame, pour le moment du moins. L'intuitive étincelle tendit vers un plan. Mais il se faisait tard là-bas. La luminosité du ciel lui avait suggéré quelque chose comme 3 heures de l'après-midi, voire 4 heures. De combien de temps disposait-il avant que le coucher du soleil ne ramenât les omarstruosités sur la grève, mettant un terme à la vie d'Eddie ? 3 heures ? 2 ? Il pouvait retourner là-bas et tenter de sauver le jeune homme, mais c'était exactement ce que Detta souhaitait. Elle lui avait tendu un piège à l'instar de ces paysans sacrifiant un agneau et l'attachant à la lisière de leur village pour attirer à portée d'arc le loup qu'il n'ose traquer dans les bois. S'il réintégrait son corps malade, il n'aurait pas à souffrir très longtemps. Quant à Detta, elle ne laissait voir que son ombre car elle se tapissait sur le côté de la porte, un revolver au poing, prête à tirer à l'instant même où elle verrait bouger ce corps qu'elle surveillait. Et comme elle avait peur de lui, elle lui accorderait pour le moins la grâce d'une mort rapide. Mais celle d'Eddie serait atroce. Il lui semblait entendre le hideux gloussement de Detta Walker.
« T'as envie de me régler mon compte, hein, fromage blanc ? Sûr que ça te démange ? Ne me dis pas que t'as peur d'une petite négresse infirme ?»
« Il n'y a pas 36 moyens, » articulèrent les lèvres de Jack Mort. Il n'y en a qu'un, un seul. La porte du bureau s'ouvrit et un homme chauve aux yeux doublés de lentilles passa la tête à l'intérieur.
« Qu'est-ce que vous comptez faire pour le dossier d'Hoffman ? » demanda-t-il à Mort.
« Je ne me sens pas très bien, mon déjeuner qui ne passe pas sans doute, je m'en irai bien tout de suite. »
Le chauve eut l'air ennuyé.
« Ça doit être un microbe. Il entraîne un du genre méchant dans le secteur, me suis-je laissé dire.
Oui, c'est sans doute ça. Du moment que vous nous réglez ce problème avec Dorfman d'ici demain 17 heures. Oui, parce que vous savez comme moi quel connard, oui. »
Le chauve, qui semblait à présent vaguement mal à l'aise, hocha la tête.
« Bon, rentrez chez vous. » C'est vrai que vous n'avez pas l'air bien, à peine si je vous reconnais.
Ça ne m'étonne pas.
Le chauve s'empressa de disparaître.
Il m'a senti, pensa le pistolero. Mais il y a autre chose. Cet homme leur fait peur. Ils ne savent pas pourquoi, mais il leur fait peur. Et ils ont raison d'avoir peur.
Le corps de Jack Mort se leva, trouva la mallette qu'il avait à la main quand le pistolero était entré en lui et y rangea les papiers étalés sur le bureau. Il fut saisi d'une impulsion de jeter un coup d'œil derrière lui sur la porte, et il y résista. Il ne la regarderait que lorsqu'il serait prêt à risquer le tout pour le tout et à la franchir de nouveau. Dans l'intervalle, son temps était compté et il avait des choses à faire.